Le journal Cyprien Lovie.
Bonsoir, il n'a même pas eu besoin de 2 tours pour
devenir le maire de Saint-Imier à 26 ans. Corentin Jeanneret s'assied dans le fauteuil, haut la main, fort de 618 voix. Ses adversaires sont largués. Le chancelier devient maire à Tramelan. Hervé Gulotti a gagné son pari de redonner le fauteuil au Parti Socialiste. Score serré, 71 voix ont manqué à Philippe Augsbourger pour garder sa place. À Moutier, les blocs restent figés au conseil municipal. Les forces antiséparatistes ont réussi à conserver 3 sièges à l'exécutif et le mouvement Moutier à venir prend 10 sièges au législatif. La mairie revient sans surprise à Marcel Winsterfer. Dans ce journal également, le refus net des Biennois à près de 70%. C'est 2 fois non aux variantes proposées pour le budget 2023. Une claque pour la gauche, nous dira la conseillère municipale Sylvia Steidley. À Valbirse aussi, on a dit nettement non aujourd'hui. Le crédit de 13 millions de francs pour les bâtiments scolaires est balayé. Les nuages en maître du ciel pour démarrer la semaine. Le temps restera sec cette nuit et demain matin. Mais de faibles pluies pourront tomber dans l'après-midi. 2-3 degrés au réveil. Maximum 8-9 au meilleur de la journée. Le PLR garde donc la mairie de Saint-Imier et c'est un jeune de 26 ans qui s'assied dans le fauteuil. Les citoyens ont élu aujourd'hui Corentin Jeanneret à la tête de l'exécutif imérien. Le libéral radical succédera ainsi à son collègue de parti Denis Gerber dès le 1er janvier. Le jeune notaire rafle le fauteuil avec 618 voix. Contre 390 pour Marco Pais Pereira de la formation ARC et 128 suffrages en faveur du socialiste Quentin Colombo. Un score qui permet à Corentin Jeanneret de s'imposer dès le premier tour parce qu'il atteint la majorité absolue. Un scénario assez inattendu pour le futur maire Corentin Jeanneret.
Pour être honnête, non. Avec 3 candidats, je pensais qu'il y aurait 2 tours. Légitimement, on pouvait le penser. Puis mathématiquement, c'est vrai qu'avec 3 candidats, ça répartit plus les suffrages. Mais apparemment, ça n'a pas été nécessaire. Et je ne peux que m'estimer satisfait de ceci.
Comment est-ce que vous expliquez finalement ce succès?
Peut-être que c'est mon engagement pour Saint-Imier qui prime aujourd'hui. Ça fait 8 ans que je fais de la politique. J'ai été élu la première fois il y a 8 ans, pratiquement jour pour jour, au législatif. Je l'ai présidé une année. Il y a 4 ans aussi, presque jour pour jour, j'ai été élu à l'exécutif. Et peut-être que c'est l'avantage que j'avais par rapport à mes 2 opposants qui n'étaient pas actifs en politique depuis très longtemps. Donc peut-être que c'est ça qui a primé. Et puis le fait d'être un Imérien d'avoir toujours été présent à Saint-Imier. Et peut-être que ça a pesé dans la balance. Après, ce n'est pas moi qui peux vous répondre le mieux à cette question.
Les Imériens ont donc accordé leur confiance à Corentin Jeanneret en lui offrant plus de 54% des suffrages. Marco Pais Pereira réunit de son côté un peu plus de 34% des voix. Un chiffre insuffisant pour espérer poursuivre le duel lors d'un deuxième tour. Une déception évidemment pour le candidat de l'alternative régionale et communale.
Oui, j'espérais un second tour. Une belle victoire de Corentin Jeanneret, donc félicitations à lui. Et le meilleur pour les 4 prochaines années.
Qu'est-ce qui vous a manqué, vous ou à votre parti, pour glaner finalement plus de voix aujourd'hui? Vous êtes à un peu plus de 34% des voix. Qu'est-ce qui manquait?
Un peu tôt encore pour vraiment analyser comme ça, chaud. Je pense que le fait de ne pas me connaître était une vraie lacune. Face à quelqu'un qui s'engage depuis longtemps, qui est connu dans la commune, je pense que c'était un écart trop grand à compenser. C'est une élection à la majoritaire, donc forcément on vote plutôt pour une personne que pour un parti, en tout cas ça c'est ma croyance. Je pense que oui, on a voté pour Corentin parce qu'on le connaît, mais parce qu'aussi il a démontré des compétences au niveau politique. Le corps électoral a fait son choix, on prend acte.
Prendre acte, c'est aussi la seule chose à faire pour l'autre candidat malheureux de cette élection à la mairie de Saint-Imier. Le socialiste Quentin Colombo n'a glané qu'un peu plus de 11% des suffrages. Sa réaction?
On a fait le maximum qu'on pouvait. Voilà, maintenant les gens ont voté. Quand même un petit peu déçu du nombre de votants. Il y a quand même 60% de personnes qui n'ont pas voté. Et ça, c'est une question à laquelle maintenant, je pense que tous les partis vont devoir penser. C'est quand même un manque énorme. Et il faut qu'on réfléchisse ensemble à une solution à trouver. Pourquoi ces gens ne votent pas? Et aussi pourquoi les gens n'ont pas voté Parti Socialiste RQL. C'est une remise en question, voir essayer de comprendre pourquoi, et pourquoi pas essayer de grandir, aussi de prendre un peu de maturité. Cette élection m'a aussi permis ça.
Un petit score quand même du côté du PS, un peu plus de 11%. Est-ce que vous vous étiez fixé un objectif?
Aucun. Non, aucun objectif. Le but, c'était aussi de participer, et ça m'a permis de voir comment ça se passait aussi des élections à la mairie. Pas d'attente, comme ça, pas de déception.
Et les Imériens ont aussi choisi leur représentant au conseil municipal aujourd'hui. Là aussi, le PLR ressort gagnant, Natacha Mengoli.
Oui, en plus de la mairie, Corentin Jeanneret termine premier meilleur élu de la liste PLR au conseil municipal. Ses camarades de parti, Gisèle Tarin et Samuel Da Silva, font aussi leur entrée à l'exécutif. Le PLR remporte donc un siège supplémentaire et devient majoritaire avec 3 conseillers en plus du maire. Alors on ignore encore pour le moment à qui sera remis le siège de conseiller de Corentin Jeanneret. Le PLR, presque finalement victime de son succès, doit organiser une séance puisqu'il est parvenu à faire élire l'ensemble de ses candidats pour le conseil municipal. Du côté d'Arc, le ton est moins jovial puisque la formation perd un siège au profit du PLR justement. La sortante Jessica Froidevaux n'a pas été réélue alors que Marco Pais Pereira fait son entrée à l'exécutif. Josica Illes repart de son côté pour un nouveau mandat. Enfin, pour le PS, c'est le statu quo. Le sortant Olivier Timmerman reste en place pour la prochaine législature. Quant à Colombo et Théo Brand n'ont pas réuni assez de suffrages pour décrocher un siège.
Merci Natacha. Et Quentin Colombo, candidat socialiste malheureux à la mairie et au municipal, qui décroche néanmoins un siège au conseil de ville, un législatif dans lequel le PLR devient clairement la première force avec 3 sièges supplémentaires remportés aujourd'hui, désormais 15 sur les 31. Arc perd 2 fauteuils et comptera 10 représentants pour la prochaine législature. Le groupe socialiste faiblit avec 1 siège en moins et 6 conseillers de ville dès le 1er janvier. On prend la direction de Tramelan, où le maire ne sera plus PLR comme à Saint-Imier, mais nouveau comme à Saint-Imier. Le socialiste et actuel chancelier de Tramelan, Hervé Gulotti, a été élu à la tête de l'exécutif aujourd'hui. Il a décroché 803 voix contre 732 pour son adversaire Philippe Augsbourger, maire sortant, 71 suffrages d'écart. Le Parti socialiste a fait une grande campagne pour cette élection à la mairie, mais même si le PS est le plus grand parti de Tramelan, Hervé Gulotti ne pense pas forcément que la mobilisation a été plus forte de son côté que de l'autre.
Je pense que l'élection à la mairie, c'est vraiment une élection de personnalité. Donc la population avait le choix entre deux profils différents. Elle a fait son choix. Donc voilà, on se réjouit et puis maintenant on se retrousse les manches pour travailler pour la municipalité.
Alors vous réalisez peut-être pas encore tout à fait, mais vous êtes déjà bien fixé. Il y a du travail à Tramelan. Vous savez un petit peu ce qui vous attend.
Ah ben on a quand même un peu travaillé cette campagne, donc on a quand même travaillé aussi un peu les thèmes. Donc je pars pas complètement innocent. Je sais bien que ça sera difficile. Je sais bien qu'il y a des défis qui sont là, mais je pense qu'il faudra mettre les choses en place pour qu'on puisse effectivement voir l'avenir avec un regard optimiste.
De son côté, Philippe Augsbourger a avoué sa déception de quitter un poste qu'il occupait depuis 2015. Il reconnaît qu'au contraire du Parti Socialiste, il n'a pas fait de grande campagne. Mais pour lui, la différence s'est faite en termes de participation, qui a atteint 53%. Philippe Augsbourger.
J'avais fait quand même mes petits calculs et je pensais qu'effectivement Hervé Gulotti atteindrait les 800 votes. Donc il me fallait une participation avoisinant les 55, voire 60%, ce qui n'a pas été le cas et qui m'a prétérité.
Le Parti Socialiste a fait une très grande campagne. Est-ce que peut-être du côté du PLR, vous n'avez pas fait assez campagne ?
Alors, je ne voulais pas forcément m'appuyer exclusivement sur le PLR. Je l'ai joué, alors il faut le dire, en dilettante, partant du principe que je ne voulais pas opposer les gens à d'autres personnes, à d'autres courants politiques. Je ne voulais pas faire campagne pour un parti, avec un parti, au détriment d'un autre parti. Ça m'a peut-être desservi, mais le maire en place ne peut pas forcément fonctionner d'une autre façon.
Et la population de Tramelan a peut-être effectivement voté pour une personne davantage que pour un parti, car contrairement à la mairie, au conseil municipal et général, le parti de Philippe Augsbourger, le PLR, sort vainqueur de ces élections, Lydiane Guenat.
Oui, tout d'abord à l'exécutif, le PLR obtient un deuxième siège. Ainsi, la sortante Karine Voumard est réélue et le parti sera chargé de trouver un candidat pour occuper le second siège. Le coprésident du PLR, Elvis Lehmann, nous a indiqué que 2 personnes se sont déjà annoncées et que le comité choisira son élu en début de semaine. Cette place au conseil municipal, le PLR l'a remportée au profit du Parti socialiste. Les sortants Christophe Gagnebin et André Ducommun repartent pour une législature, alors que Chendressa, Kochinay et Kokai n'est pas réélu. Et du côté des autres partis, c'est le statu quo. Mathieu Chania du groupe débat conserve son siège, tout comme l'UDC Pierre Sommer. Et vous le disiez Cyprien, le PLR sort également vainqueur de l'élection au Conseil Général. Les libéraux radicaux gagnent 2 sièges pour arriver à un total de 9. Par contre, au législatif, ils ne les gagnent pas au profit du PS. Un a été récupéré au PEV, qui passe donc à 2 élus, et l'autre à l'UDC, qui comptera à présent 5 sièges. Pas de changement pour les socialistes qui seront toujours 13, ni dans le groupe débat qui conserve ses 8 sièges.
Merci Lydiane. Et signalons que pour ces deux élections-là, la participation flirte ou dépasse légèrement les 50%. Moutier choisit la continuité à la mairie. Le candidat sortant Marcel Winisterfer du centre a été largement réélu aujourd'hui. Il a récolté 1300 voix, soit 72,1% des suffrages, contre 503 seulement pour son rival Francis Pelaton du mouvement Moutier à venir. Ce duel n'était pas inédit, les deux hommes s'étaient déjà affrontés en 2016 pour un même résultat. Mais pour Marcel Winisterfer, ce n'était pas forcément gagné d'avance.
C'est jamais tout à fait évident. Quand on se présente devant le peuple, voilà, il faut de l'humilité. Et puis on ne sait jamais ce qui va vraiment sortir des urnes. Là, ben, voilà, je suis très heureux d'apprendre que la proportion reste à peu près identique à celle d'il y a 6 ans. C'est vraiment un beau résultat. Je remercie évidemment toutes les électrices, tous les électeurs qui m'accordent une fois encore leur confiance. J'essaierai d'être à la hauteur encore une fois. La hauteur pour moi, c'est toujours un peu compliqué, mais on y arrivera.
Et surtout que c'est une législature particulière qui nous attend. C'est la législature qui va voir Moutier changer de canton. C'est quelque chose de particulièrement grisant pour vous?
Oui, alors pour la position que j'occupe, celle de maire, c'est effectivement extraordinaire parce que je ne connais pas d'exemple d'une ville de 7000 habitants qui change de canton. Donc c'est quelque chose franchement d'extraordinaire et de vivre ça à l'intérieur puis d'être à la tête de cette commune qui va vivre cette période-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
Francis Pelaton, candidat malheureux, se présentait lui en tant qu'antiséparatiste à ce scrutin. Une image qu'il défend, d'autant qu'il n'y a pas que des autonomistes en prévôté, assure-t-il.
Je le redis, il y a 45% de gens à Moutier qui sont antiséparatistes et je ne pense pas que ces gens-là, ils aient changé d'idée ou comme ça. Ils ne viennent pas et puis ils baissent les bras. Et puis voilà, alors... Quant à ce qui s'allie avec les autonomistes, je ne crois pas, mais peut-être dans quelques générations. Pour l'instant, non.
Cette démobilisation du camp Probernois, vous l'avez senti venir quand même?
Bah ouais, plus particulièrement ici. Hein, bon, je fréquente plutôt les gentils autonomistes qu'en veulent encore un peu, mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Oh, tu vois, à quoi ça sert ?» Et voilà, quoi, c'est un peu comme ça. Mais on l'a déjà senti avant, hein. Au moment où la ville a choisi d'aller dans le canton du Jura, c'est déjà été une bonne partie de la démobilisation.
Et la participation pour ce scrutin à la mairie de Moutier a atteint effectivement un historiquement bas 44,5%. Sur l'ensemble du conseil municipal, les forces en présence resteront les mêmes qu'avant. 6 élus pro-jurassiens et 3 antiséparatistes. Outre le maire Marcel Winisterfer, le centre est parvenu à conserver ses 2 sièges avec la réélection de Pascal Eschmann et l'arrivée de Clément Picret. Le Parti socialiste autonome garde ses 3 fauteuils en réalisant ses 3 sortants, Valentin Zuber, Pierre Sauvin et Karim Bortoloussi. L'UDC gagne 1 siège et en comptera 3, les sortants Marc Tobler et Suzanne Kohler, ainsi que Stéphane Girardin, nouvel élu. Concernant le conseil de ville, il y avait de nombreux points d'interrogation à Moutier. Comment répartir les 41 sièges, sachant que plusieurs partis ont disparu de la scène politique? Alors pour le législatif, on pense notamment à l'UDC, au PLR, au PSJB ou encore à Interface. Il y avait donc de la place pour gratter des sièges. Olivier Zano, vous êtes en direct de Moutier. Au final, les équilibres n'ont pas été trop perturbés.
Non, pas de grand chamboulement. Les partis de l'entente jurassienne ont quasiment tous tiré leur épingle du jeu. Tous, sauf un, les jeunes du RORAC, qui perdent un siège. Ils n'en détiennent plus que 3. C'est plus 1 pour le RPJ, 4 élus. Plus 1 pour le centre, 6 élus, plus 1 aussi pour le PCSI qui place un 2e conseiller de ville. Enfin, le Parti Socialiste Autonome reste la première formation de Moutier. 13 élus aujourd'hui, c'est un de plus, environ 30% des suffrages. Avec 28 conseillers de ville sur 41, l'entente jurassienne renforce encore sa position. C'est 3 sièges de plus qu'en 2018. Dans l'opposition, on pense notamment aux électeurs antiséparatistes. Toutes les intentions de vote se sont portées sur le mouvement Moutier à venir. C'était attendu. Et cela explique cet immense bond en avant de la formation. Un seul élu en 2018, 10 aujourd'hui, les 10 qui figuraient sur la liste. Enfin, pour leurs premières élections, les jeunes progressistes socialistes obtiennent un siège. Et puis ce cas de figure particulier, le restaurateur Patrick Mouster, seul inscrit sur la liste Osons Moutier, gagne 2 sièges. Et dans cette situation, il faudra aller chercher quelqu'un parmi toutes les personnes éligibles à Moutier, une personne qui acceptera de siéger à ses côtés. Un mot enfin sur la participation, environ 42%, c'est un retour à la normale à Moutier où la mobilisation était souvent bien plus forte ces dernières années.
Merci Olivier Zano. On l'a dit, pas de révolution donc à Moutier, mais quand même beaucoup de nouvelles têtes. La moitié des élus le seront pour la première fois. Outre ces trois grandes communes, il y avait aussi des élections ailleurs dans la région, à Reconvilliers. 4 sièges pour l'UDC, 3 pour le PLR et les sortants réélus. C'est la couleur du conseil municipal, elle est déterminée. Si le maire Daniel Bouxer avait déjà été réélu tacitement, les 6 sièges de conseiller ont été repourvus par les urnes aujourd'hui. L'UDC place Yves Rutlisberger, Marc Voiblet et Étienne Gaffner. Le PLR, Erwin Grunenwald, Jean-Michel Hirschi et Pascal Beuclair. À Petit-Val, il y avait une élection libre pour compléter le conseil. Sarah Ruffio et Irène Lirti de Soubeau ont été élus avec respectivement 36 et 28 voix. Elles ont demandé un délai de réflexion jusqu'à mercredi pour déterminer si elles acceptent ou non la fonction. À 18h, passé de 16 minutes sur RJB, sachez que ce dimanche 27 novembre n'était pas qu'un dimanche d'élection dans la région. On votait aussi par endroits. À Bienne, le budget 2023 s'est proprement cassé les dents devant le peuple. Les citoyens ont refusé par près de 70% des voix les deux variantes proposées par la ville dans le cadre du plan de stabilisation des finances, Substance 2030. Bienne entrera donc en 2023 sans budget. Les réactions de la conseillère municipale en charge des finances, Sylvia Steidler.
C'est une claque pour la gauche du Parlement. Les parlementaires majoritaires avaient élaboré ces deux variantes et avaient corrigé les variantes du conseil municipal.
Alors on sait que cette campagne s'annonçait particulièrement compliquée pour la ville de Bienne, mais on ne s'attendait peut-être pas à un rejet aussi grand. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je présume d'une part que les gens se sont mobilisés puisqu'on a près de 33% du taux de participation. Quand on n'a qu'un objet communal comme le budget en général, on est en dessous de 20%. Donc il y a une très grande mobilisation. La situation au niveau des prix, de l'énergie, également de l'inflation, ont certainement aussi joué un rôle important dans ce non à une augmentation d'impôts.
Sylvia Steidler au téléphone de Diana D'Acosta. Avec ce refus, la ville de Bienne sera limitée dans ses actions et seules les dépenses indispensables pourront être effectuées. Dans le cas où aucun budget n'est défini avant le 30 juin 2023, le conseil exécutif arrêtera lui-même le budget et les quotités d'impôts. Les écoles de Malraix et de Bévillard ne seront pas rénovées. Les citoyens de Valbir sont sèchement refusés aujourd'hui un crédit de 13 millions de francs pour donner une seconde jeunesse à ces bâtiments. Rejet à plus de 70%. Grande déception pour le conseiller municipal en charge des écoles à Valbir, Pierre-Michel Rezzo.
C'est une forme de déception, bien sûr, pour les enfants d'abord. Et puis aussi pour tous ces gens qui ont travaillé depuis 2017 sur ce projet, cette variante. À partir de là, c'est un choix citoyen. La démocratie a parlé, tant mieux quand on ait encore un aspect démocratique et que les citoyens puissent décider.
Le projet avait déjà été revu un peu à la baisse. C'était pas suffisant du coup, c'est ça le signal que ça envoie ?
Oui, je pense que c'était pas suffisant. Ça veut dire que le projet est descendu de 19 à 13 millions. Il y a toujours une augmentation de la quotité d'impôt. Je pense que c'est un paramètre important à l'heure actuelle. La situation économique n'est pas bonne. On est vraiment dans des bons contraires en plus à l'heure actuelle. Et une augmentation de la quotité d'impôt, je pense qu'elle est mal perçue à l'heure actuelle. Et puis après, il y a peut-être le projet lui-même aussi qui ne convenait pas à d'autres personnes. Je pense que c'est un tout. Mais c'est surtout l'aspect financier. Est-ce que je peux comprendre en 2022 ?
Pierre-Michel Rezzo promet de ne pas baisser les bras. Pour lui, il faudra replancher sur un nouveau dossier et le proposer lorsque le timing sera le meilleur. À Corgémont, on votait aussi sur le thème de l'école, mais la question n'était pas la même et les citoyens ont accepté un crédit additionnel de 128 000 francs pour l'agrandissement de l'école secondaire du Bas-Vallon. Oui, à 71%. Les communes de Péry-la-Heutte, Sonsbeau-Sombeval et Cortébert devront aussi se prononcer avant Noël sur leur part à fournir, puisqu'en tout, les quatre communes doivent allonger 410 000 francs. Et puis, dernière information de votation. En Valais, les citoyens ont largement accepté aujourd'hui une loi qui encadre la pratique de l'assistance au suicide en institution. La nouvelle loi garantit aussi l'accès aux soins palliatifs. Plus de 75% des votants l'ont approuvé.
RJB, il est 18h, passé de 19 minutes.
Sport. Et on démarre avec une nouvelle surprise à la Coupe du Monde de football au Qatar. Le Maroc a battu la Belgique 2-0 cet après-midi. Les Africains prennent ainsi les rênes du groupe F avant le résultat du duel qui se tient en ce moment entre le Canada et la Croatie. On arrive gentiment à l'heure de jeu. C'est 2-1 pour les Croates qui étaient pourtant menés 1-0 très rapidement dans ce duel. Ils ont renversé la vapeur en fin de première mi-temps en marquant aux 36 et 44e minutes. Ce soir, c'est en quelque sorte le choc des matchs de poule de ce mondial. Le champion du monde 2010, l'Espagne, affronte le champion du monde 2014, l'Allemagne, à 20h. Une rencontre entre deux équipes en pleine mue. Elle s'annonce palpitante, d'autant plus que l'enjeu est de taille, Loïc Georgi.
Effectivement, il l'est, mais surtout pour l'Allemagne, il va absolument falloir relever la tête après la défaite contre le Japon 2-1 lors de son premier match au Qatar. La rencontre de ce soir se jouera entre deux formations qui sont plus ou moins dans une phase de reconstruction. Après plusieurs années d'or, entre 2008 et 2014 environ, les deux équipes doivent compter désormais sur une nouvelle garde, avec de jeunes joueurs qui n'ont encore pas forcément l'habitude des grands événements. Même si on a l'impression que la mue de l'Espagne est légèrement plus avancée que celle de la Mannschaft. En tout cas, pour l'instant, l'Aurora a séduit avec une victoire étincelante 7-0 lors de son premier match contre le Costa Rica. La dernière rencontre entre l'Allemagne et l'Espagne ne donne pas les faveurs de la cote aux Allemands non plus, puisqu'ils avaient reçu une véritable gifle il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, 6-0. Mais on le sait, en football, seule la réalité du terrain compte.
Et dans le même groupe, le Costa Rica a recentré les débats en dominant le Japon 1-0 ce matin. Toujours en lien avec ce mondial, la Suisse ne pourra pas compter sur Noah Okafor demain contre le Brésil. L'attaquant de Salzbourg est forfait en raison de problèmes musculaires à une cuisse. Il ne s'est pas entraîné avec le reste de l'équipe aujourd'hui, selon le médecin de l'équipe nationale. Suisse-Brésil, c'est demain à 17h. En ski alpin, Wendy Holdener va se battre pour la victoire lors de la deuxième manche du slalom de Killington aux États-Unis. La Schwitzoise est deuxième à 21 centièmes de l'américaine Michaela Schifrin. Elle qui n'a d'ailleurs jamais été battue en slalom sur cette piste du Vermont. 5 filles sont dans les 4 dixièmes et peuvent donc prétendre à la victoire finale. Début de la deuxième manche à 19h. Puis les hommes, eux, disputent un super G à Lake Louise dès 20h30. C'est ainsi que se termine ce journal spécial réalisé en ce dimanche électoral. Merci à l'ensemble de la rédaction pour la production de cet après-midi et de ce journal. Vous retrouvez, vous qui nous avez écouté peut-être aussi cet après-midi, l'intégralité des résultats et des noms des élus sur rjb.ch. Passez toutes et tous une excellente soirée.